L'Iran inaugure la dernière phase du champ gazier de Parsud. Les avions de combat de l'armée israélienne ont lancé une frappe depuis la mer Méditerranée, endommageant la piste de l'aéroport d'Alep. Et les Libyens rejettent fermement la normalisation avec le régime sioniste. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a officiellement inauguré la phase 11 du champ gazier de Parsud dans le golfe Persique. Lors d'une visite, ce lundi 28 août au port d'Assalouye, dans la province méridionale de Bushehr, le président Raisi a inauguré la dernière phase de développement de Parsud, le plus grand gisement de gaz au monde partagé entre l'Iran et le Qatar. Il devrait également rencontrer la population locale ainsi que des responsables et experts de l'industrie pétrolière. La phase 11 de Parsud produira 15 millions de mètres cubes de gaz par jour dans les premiers stades. Plus tard, la capacité sera portée à 56 millions de mètres cubes de gaz, 50 000 barils de condensat de gaz et 750 tonnes de soufre par jour. Le gaz issu de la phase 11 de Parsud sera transféré vers la raffinerie terrestre de la phase 12, où il sera traité puis injecté dans le réseau gazier national. Le commandant de la défense aérienne de l'armée iranienne, le général de brigade Alireza Sabahi Fard, a déclaré que la République islamique a fait des progrès significatifs dans la fabrication de drones et a ajouté que les équipements de défense aérienne de fabrication iranienne peuvent désormais être exportés vers d'autres pays. Il a fait valoir que l'Iran est la puissance dominante en matière de défense aérienne dans la région, affirmant que le pays disposait de meilleurs équipements de défense les plus avancés au monde, notamment dans le domaine de la guerre électronique. L'Iran a progressé ces dernières années en suivant les directives du leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Ali Khamenei, a déclaré dimanche 27 août le général Sabahi Fard. Dans le domaine de la production de drones, nous avons développé des projets dont l'ennemi ne sait rien, a-t-il ajouté. En juin 2023, la Force de défense aérienne a annoncé son intention de fabriquer des équipements militaires avancés à longue portée pour faire face aux menaces potentielles. Ces dernières années, les experts et techniciens militaires iraniens ont fait de grands progrès dans la fabrication d'une large gamme d'équipements de fabrication nationale, rendant les forces armées autosuffisantes dans le domaine d'armement. Les produits militaires de fabrication iranienne ont également trouvé de nombreux clients dans le monde. Les responsables iraniens ont averti à plusieurs reprises que le pays n'hésiterait pas à renforcer ses capacités militaires qui sont entièrement destinées à la défense. Les médias d'État syriens affirment que les avions de combat de l'armée de l'air israélienne ont lancé une frappe depuis la mer Méditerranée, endommageant la piste de l'aéroport d'Alep. Israël a lancé lundi une frappe aérienne contre un aéroport international dans la ville d'Alep, dans le nord de la Syrie, le mettant hors service, ont rapporté les médias officiels syriens, citant le ministère de la Défense. L'ennemi israélien a mené une attaque aérienne visant l'aéroport international d'Alep. L'agression a causé des dégâts matériels à la piste de l'aéroport et l'a mis hors service, a indiqué une source militaire. L'agence de presse officielle syrienne Sana a déclaré que vers 4h30 du matin, des avions de combat de l'armée de l'air israélienne ont tiré leurs missiles depuis l'au-dessus de la mer Méditerranée, à l'ouest de la ville côtière syrienne de Latakia, et ont visé l'aéroport international d'Alep. La défense aérienne syrienne avait abattu la plupart des missiles tirés. L'attaque n'a causé que des dommages matériels et elle n'a fait aucune victime, ajoute la même source. L'aéroport a été contraint de fermer temporairement en raison des lourds dégâts causés à la piste par ces frappes. Après que le premier ministre israélien a proféré des menaces contre le vice-président du bureau politique du mouvement de la résistance islamique de la Palestine Hamas, ce mouvement a considéré ces menaces comme vides de sens, soulignant que de telles menaces n'intimideraient pas la résistance. Les menaces proférées par les occupants d'assassiner les dirigeants de la résistance n'intimident pas le peuple palestinien et nous nous opposons avec fermeté à toute stupidité de l'ennemi, est-il écrit dans un communiqué du Hamas. Les menaces de Netanyahou d'assassiner Saleh Al-Arouri, chef adjoint du bureau politique du Hamas, et les dirigeants de la résistance sont vides de sens et ne peuvent pas affaiblir la résistance, a affirmé le Hamas dans son communiqué. Le ministre français de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé dimanche 27 août que le port de l'abaya, un long vêtement féminin qui couvre l'ensemble du corps, va être interdit à l'école en France, invoquant une violation des lois laïques françaises. « J'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école », a annoncé Gabriel Attal dans la soirée du dimanche sur TF1, affirmant vouloir donner des règles claires au niveau national aux chefs d'établissement scolaire à partir du 4 septembre. L'abaya est une robe longue et ample portée par de nombreuses femmes à travers le monde musulman. L'interdiction a été lancée par l'élite politique de droite et d'extrême droite, malgré les arguments de la gauche affirmant qu'elle empiéterait sur les libertés religieuses et civiles des individus. Clémentine Autain, du parti d'opposition de gauche, France Insoumise, s'est indignée de la police du vêtement, jugeant anticonstitutionnelle l'annonce de Gabriel Attal, contraire aux principes fondateurs de la laïcité et un signe du rejet obsessionnel des musulmans par le gouvernement. En France, en vertu des lois sur la laïcité, il est déjà interdit de porter le foulard islamique dans les bâtiments gouvernementaux, y compris les écoles. Il est également interdit aux fonctionnaires, tels que les enseignants, les pompiers ou les policiers, de porter le hijab lorsqu'ils sont au travail. Des moments de protestation spontanée ont éclaté dimanche 27 août à Tripoli, capitale libyenne, et dans plusieurs de ses banlieues, en signe de refus d'une normalisation avec Israël. La vague de contestation et condamnation intervient peu après l'annonce par les médias israéliens d'une rencontre la semaine dernière à Rome entre le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen et son homologue libyenne Najla Al-Manrouche, qui a été alors suspendue par le chef du gouvernement libyen et soumise à une enquête administrative. Outre la capitale, les manifestations ont gagné d'autres villes où des jeunes ont coupé les routes, brûlé des pneus et brandi le drapeau palestinien. Le centre-ville de Tripoli a été paralysé par les manifestants, dont un groupe s'est dirigé vers le ministère des Affaires étrangères pour réclamer la démission de Najla Al-Manrouche. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent des manifestants encouragés par les conducteurs des voitures passant à proximité qui tentaient de forcer l'enceinte du ministère, brandissant des drapeaux palestiniens. Des milliers de Nigériens ont apporté leur soutien à la demande du Conseil militaire nigérien d'expulser l'ambassadeur de France en se rassemblant dimanche 27 août devant la plus grande base française à Niamey. À l'approche de la fin du délai fixé par le Conseil militaire, la police nigérienne a mis en place un périmètre de sécurité autour de l'ambassade de France pour empêcher toute éventuelle attaque. La France a implanté une importante base aérienne appelée 101 Niamey au Niger, qui abrite 1500 soldats français, 800 soldats américains et 100 avions de combat. Elle dispose également d'une grande ambassade à Niamey, actuellement très difficile d'accès. Le principal axe des opérations françaises au Niger est la base 101, située à proximité de l'aéroport international d'Ihoria Amani. Cette base est utilisée pour des missions conjointes des forces américaines et françaises. La marine chinoise a annoncé avoir testé avec succès l'artillerie électromagnétique la plus rapide et la plus puissante au monde. Selon la marine chinoise, l'arme serait capable de propulser un projectile de 124 kg à une vitesse de 700 km par heure, une vitesse obtenue en 0,05 secondes. Cette nouvelle gamme d'armes au fonctionnement électromagnétique plutôt que chimique a déjà fait l'objet de plusieurs expérimentations aux États-Unis, considérée comme la première puissance militaire du monde. Dans cette course à l'armement entre les deux puissances, la Chine veut donc frapper un grand coup. Et jamais Washington n'aurait propulsé un objet du poids annoncé par l'Empire du Milieu pour son test. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. BRICS, nouveau rival du G7. Lors du sommet des BRICS, jeudi 24 août à Johannesburg, l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont été invités à rejoindre le groupe en janvier. Fortement soutenu par la Chine et la Russie, l'inclusion de l'Iran a renforcé l'axe anti-américain au sein des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Il sera désormais bien plus compliqué pour les États-Unis et l'Occident de traiter avec l'organisation. Il est ici question d'un redoutable rival des puissances du groupe des 7, G7, qui pourrait remodeler la géoéconomie et la géopolitique sur toute une série de questions, dont surtout le statut du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale. Le groupe qui n'a pas encore d'acronyme constitue-t-il un tel rival? Les experts de l'Atlantic Council, un think tank américain spécialisé dans les relations internationales, ont partagé leurs idées, dont voici un aperçu. Jonathan Panikoff, directeur de l'initiative de sécurité au Moyen-Orient, Scowcroft, au sein du programme Moyen-Orient de l'Atlantic Council, estime que la décision des pays BRICS d'inviter 4 pays du Moyen-Orient à rejoindre leur rang met en évidence les vents géopolitiques changeant autant qu'elles reflètent l'opportunité d'une intégration économique plus étroite avec ces États. Pour l'Arabie saoudite et les Émirats, l'inclusion dans le groupe est potentiellement symbiotique, car tous deux cherchent à engager et à approfondir leur coopération avec des pays non occidentaux et à diversifier leur partenariat économique afin de se protéger davantage contre les États-Unis. Riyad et Abu Dhabi considéreraient probablement la décision de les rejoindre comme un moyen de poursuivre leur objectif d'être considérés non seulement comme des leaders régionaux importants, mais aussi comme des leaders mondiaux. Quant à l'Égypte, l'emplacement stratégique clé du Caire, le contrôle du canal de Suez et les gisements de gaz récemment découverts sont probablement considérés par le groupe BRICS comme potentiellement lucratifs, tant sur le plan économique que politique, au cours des décennies à venir. En ce qui concerne l'Iran, son inclusion a presque certainement été motivée par la Russie et la Chine, car les énormes réserves de gaz et de pétrole du pays ont probablement été un argument de vente pour Pékin pour convaincre Brasilia, Pretoria et New Delhi d'accepter l'invitation. De l'avis des États BRICS, y compris des membres nouvellement invités, la réduction de l'influence économique et financière mondiale des États-Unis créerait des conditions de concurrence plus équitables, tandis que des pays comme l'Iran y verraient un moyen de réduire davantage l'impact des sanctions. Pour Washington, cela devrait être un avertissement. La nécessité de renforcer et de renouveler les relations avec les alliés n'a jamais été aussi importante. Le monde émergent est peut-être multipolaire, mais certains pôles seront plus proches que d'autres.